Recevez de gros bisous. En principe, les Martinets font pas des bisous, ils font des becquetés. Ne taquinez pas. Saint-Esprit, merci. Tu viens. Tu viens parce que tu as envie de glorifier Jésus et c'est ce que nous voulons tous. Nous ne recherchons pas la réalité humaine, la gloriole humaine, mais la gloire de Jésus. Et cette gloire, nous te prions, Seigneur, de la faire descendre par grâce en chacun et en chacune. En ton nom, mon Seigneur, et merci, Saint-Esprit. On est des vases à la fois pour propager, pour déverser et en même temps pour recevoir et pour donner à nouveau. Amen. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui va se produire, qui commence déjà à se produire, mais qui va se produire mondialement. Et ça, ce qui m'a conduit à ça, c'est une petite lecture. Pour ceux, quels sont ceux qui ont lu le livre « L'Église messianique se lève » ? Qui a lu ce livre ? Il va falloir vraiment le lire. Juste une page, et ça a déclenché en moi quelque chose de très jaloux, mais en même temps de compréhensible. Je vous lis. Tout d'abord, Dieu ne cherche pas des gens talentueux ou charismatiques, ni même avec des grandes idées. Dieu veut des hommes et des femmes qui le connaissent et reste fidèle en toute saison et en toute circonstance. Alors voilà, c'est à la page 21 de ce livre, il est écrit ceci. Ceux qui ont vécu un réveil, parfois, passent le restant de leur vie à regarder en arrière et à dire combien c'était bien lorsque le réveil était là. Ça, c'est l'attitude des anciens combattants. Cependant, l'Église du Nouveau Testament vivait dans un réveil perpétuel. La présence de Dieu venue sur l'Église à la Pentecôte ne s'était pas retirée. L'Église primitive vivait ce que aucune autre branche du christianisme n'a jamais pu reproduire, c'est-à-dire un réveil perpétuel, qui dura des centaines d'années. Un réveil persistant sur plusieurs générations. Il se répandait partout et le monde ne pouvait pas et ne pouvait rien faire contre lui. À la fin du premier siècle, l'Église s'était répandue jusqu'aux extrémités du monde connu alors. Cela s'étendait de l'Inde à l'est, de l'Angleterre à l'ouest, de l'Allemagne au nord et de l'Éthiopie au sud. Son expansion étonnait le monde. Et dans une ville, Thessalonique pour ne pas la citer, Paul et Silas sont allés se promener et les païens ont crié d'horreur. En 10 ans, c'est dans Actes 17:6, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Il était courant qu'une église implantée dans une ville grandisse jusqu'à 20 à 30 000 membres. Certains historiens estiment qu'à la fin du IIIe siècle, la moitié de la population de l'Empire romain s'était convertie au christianisme. Cette croissance s'est produite dans un monde totalement païen, dans une culture complètement immorale, pendant des temps de très très sévères et dures persécutions. Justin Martyr, qui est né au IIe siècle, qui est mort à Rome d'ailleurs, autour de la moitié du IIe, il a écrit « Il n'y a aucun peuple, aucun grec, aucun barbare, ou de n'importe quelle autre race, quelle que soit la façon de les appeler, ou quelle que soit la façon de les identifier, qu'ils habitent dans des tentes ou qu'ils voyagent en chariotes ouvertes, parmi lesquelles les actions de grâce et les prières ne soient offertes au nom du Christ crucifié. » Et écoutez bien, et c'est ça qui a déclenché une véritable curiosité spirituelle dans mon cœur, l'historien Philippe Schaff écrit « On peut honnêtement affirmer qu'à la fin du IIIe siècle, le nom du Christ était connu, adoré, persécuté dans chaque province, dans chaque ville de l'Empire. Mais selon toute probabilité, vers la fin du IIIe siècle, l'Église comptait 10 millions d'âmes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir de cette manière? Eh bien, c'est très simple. Ils connaissaient Jésus. Je vous invite à lire quelque chose. Et c'est ce qui va se produire. On peut parler de Jésus sans le connaître. On peut savoir beaucoup de choses sur la personne de Jésus sans le connaître. Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, comme quelque chose d'inutile, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Cette connaissance-là, Dieu l'appelle l'excellence. Il faut bien comprendre, aujourd'hui dans le monde humaniste, on veut avoir une connaissance excellente. Or, ce n'est pas ce que Dieu demande. Et Dieu n'est pas contre les connaissances. Mais si on ne connaît pas Jésus, on ne connaît pas le Saint-Esprit. Et si on ne connaît pas le Saint-Esprit, par Jésus, on ne peut pas aller jusqu'au cœur du Père. C'est pour ça que la religion est très facile. Elle ne dérange pas, elle n'engage rien. Et comme a dit notre cher Luc tout à l'heure, on peut se retirer d'une activité et s'engager davantage dans le corps de Christ. Parce que la première activité, vous vous souvenez l'an passé de ce que je vous avais partagé me concernant, Jésus m'avait posé la question, es-tu amoureux de moi? Alors là, ça, boum, d'emblée. Et cette année, ça a été une autre question. Chaque année, il y a une question qu'il pose Jésus. Mais quand Jésus pose une question, ça a des conséquences sur des décennies. Est-ce que tu me connais en esprit et en vérité? On peut prononcer le nom de Jésus évangéliquement, charismatiquement. Cette église, l'église primitive, connaissait Jésus en personne. Les premiers chrétiens n'avaient pas de Bible. Ils avaient les écrits de l'Ancien Testament. Mais ils avaient une chose. Et c'est là où vraiment, il faut vraiment réfléchir. Ils avaient une communion intime avec le Saint-Esprit. On place trop le ministère et la personne du Saint-Esprit sur l'expression des dons et de la puissance divine. Or, le Saint-Esprit est une personne divine, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il faut apprendre à connaître quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a 3 semaines, le Seigneur m'a fait préparer un message. Quels sont les désirs du Saint-Esprit en moi? Ça écarte tout de suite la réalité de mes désirs personnels, charnels et diaboliques et sentimentaux. Ça exclut toute ma personne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit vers Jésus. Il prendra de ce qui est à moi, dit Jésus, et il me glorifiera. Ah d'accord. Mais quand on va vers Jésus avec le Saint-Esprit, on va où après? Vers le Papa. Et voilà pourquoi il y en a si peu qui ne connaissent pas le Père. Car le Seigneur a dit, celui qui ne m'honore pas, n'honore pas le Père. Ouh là là! Mais comment on peut ne pas honorer le Fils en négligeant le Saint-Esprit? Il y a une différence, tant pis pour ce que j'ai écrit, il y a une différence entre comprendre, ressentir ce que nous, on ressent, et une différence en ce que le Saint-Esprit en nous, lui, il ressent. Quand le Saint-Esprit est attristé, nous devons l'être, si nous sommes bien branchés avec lui, nous le sommes immédiatement. Pourquoi? Parce que cela a une influence sur notre moralité, sur notre comportement, sur notre langue si difficile à maîtriser. Et c'est ça. Un jour, quelqu'un est venu, il a posé les mains sur moi, il m'a dit « Ouh là là, toi, tu es amoureux du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que ça m'a fait du bien ?
Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Parce que je savais que si j'étais amoureux du Saint-Esprit, je serais alors amoureux de Jésus et amoureux de mon papa. Et que je n'avais qu'une envie, c'est d'avoir son cœur. Or, la première église, voilà comment ça se passait. Ils étaient connus pour être des gens sans instruction, mais ils savaient et ils avaient vu que c'était des gens qui étaient allés avec Jésus. Avec. Quand on a compris qu'une dénomination ne sauve pas, on a vite compris qu'il faut chercher autre chose. Ben oui. Nous sommes la plus grande organisation mondiale, institution religieuse. Le bouchon, il saute. On va prendre quelque chose. L'église de Laodicée, Apocalypse 3. On va faire ça en diagonale. Avant, je n'aurais jamais osé. Maintenant, j'ose. Parce que ce n'est pas moi qui prêche, c'est lui en moi. Qu'est-ce que dit le Seigneur? 3, 15 à 18. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid, puisses-tu être bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, eh bien, je te vomirai de ma bouche. Oulala. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Eh ben, dis donc, je te conseille. Et quand Jésus donne un conseil, c'est presque un ordre. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tu reçoives des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et aussi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Bien, ok. Voilà une église. Il est parlé de richesse. Vous savez que Laodicée était une ville qui avait un centre bancaire extrêmement riche. Et vous allez voir le problème de l'Église. Ensuite, elle confectionnait des vêtements et des tapis de laine qui étaient réputés dans le monde entier. C'est pour ça qu'il est parlé de vêtements. Donc c'était quand même une Église qui faisait des choses intéressantes. Et puis, il est parlé de collyre. J'ai dit, tiens, pourquoi? Eh, parce qu'elle possédait une école de médecine dans le domaine du soin des yeux mondialement connu. Et le collyre de Laodicée était réputé dans le monde entier. Bye. J'ai dit, waouh. Alors, on pourrait s'appuyer en disant, mais le Seigneur ne l'a pas accusé d'immoralité, d'idolâtrie ou d'apostasie. Non, même pas. Même pas. Mais le reproche de Jésus, c'est qu'elle tirait profit de ces choses en se gonflant. Et Jésus lui reproche simplement, mais gravement, son orgueil. Ouh là là ! Alors, sa propre satisfaction d'elle-même. Là, je voudrais nous encourager. Il est hors de question qu'en tant que chrétien, on se s'auto-satisfasse de quelque chose, surtout s'il y a les fruits à l'appui. Combien s'arrêtent au baptême d'eau? Combien s'arrêtent au baptême de l'esprit? Combien s'arrêtent dans l'expression des dons et disent, ben, ça y est, j'ai l'approbation de Dieu, ça marche. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre très chère intimité avec lui. Un couple, il est fort dans l'intimité, en dehors de tous les autres regards. C'est à la maison qu'on est vraiment chrétien, c'est pas dans l'assemblée. C'est au travail qu'on est vraiment chrétien. Quand le patron vous dit bonjour ou pas, que vous faites du bon travail et qui vous dit « Oh, continue. » Wow, c'est là, quand on va dans un magasin, quand on parle aux étrangers, bref, et surtout avec les gens qui ne nous aiment pas, parce qu'on a des gens qui ne nous aiment pas. Là, on voit une chose, c'est qu'elle mettait sa confiance dans toutes ses richesses terrestres. Nous ne mettons jamais notre confiance sur la réussite d'une église. Mais c'est en Christ. Sans lui, je suis incapable de prêcher. Quand on comprend ça, sans lui, on est incapable de prier. Sans lui, on est incapable d'avoir la foi. Sans lui, on n'est rien de rien. Combien de fois on dit de quelqu'un qui est important parce qu'il a beaucoup de diplômes, Bon, Jésus n'est pas contre. On dit, voilà, cet homme, oula, tu savais tout ce qu'il sait, il parle 8 langues et tout. C'est pas mauvais. Mais à quoi ça sert si on ne connaît pas Jésus? Quand il va arriver là-haut, Seigneur, regarde tous mes diplômes, ils sont tellement lourds, je n'ai pas pu les emmener avec moi. Il dit, non. Celui qui ne m'honore pas, n'honore pas le Père. Oh là là. Et c'est impossible d'honorer Jésus si on n'honore pas le Saint-Esprit. Quand il y a, moi je connais des pasteurs, dès qu'on parle du Saint-Esprit, il faut qu'on voie une autre organisation, un calendrier, bande de trouillards. Oui, on dit Saint-Esprit, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on regarde la forme extérieure, comme Anne tout à l'heure, comme elle marchait et tout, mais rigide, pas bouger, rien. Non, complètement démantibulé. Mais Jésus ne se fie pas à ça. Vous avez des gens très clean, tout, mais ce sont des vulgaires ennemis de Dieu. Oh là là! Soyons nous-mêmes. Mais que Christ grandisse en chacun. Et le miracle de l'Église, c'est quand une Église connaît vraiment en personne le Christ, on n'a pas d'effort à faire. Le Saint-Esprit souffle. Et c'est ça qui m'a dit, mais c'est pas possible. Un jour, il y a un secrétaire, qui est venu vers César. Et il a dit, César, Vite, faut faire quelque chose. Quelques écrivains anciens vont jusqu'à dire que les chrétiens sont au nombre équivalent, voire même supérieur, à celui des adorateurs païens dans tout l'Empire romain. Et l'Empire romain a dit, oulala, ces gars-là, ils sont dangereux. Faut commencer à les réduire. Et voilà comment la persécution est venue. Mais plus on les persécutait, plus l'Église augmentait. Oh ! Et aujourd'hui, un moustique se pose sur notre nez, on a un bouton comme ça y est, on démissionne. Mais comprenons. Je voudrais tellement vous dire que c'est merveilleux de rencontrer Jésus. Mais quand on est dans le désert, quand on est dans la maladie, quand on est qu'il y a des choses qui ne vont pas, oh bonsoir, est-ce que vraiment on peut louer Jésus pour toute chose? Pas évident. Un petit peu. On voudrait plus, mais le cœur n'y est pas. Et pourtant... Et moi, ce qui m'a surpris, c'est quand Jésus, il y a la tempête, il dort. Il dort. Oui, il dort. Il a la paix, la sérénité, il a confiance en son Père. Les vagues, c'est pas un problème. Et c'est pour ça qu'il a repris sévèrement, homme de peu de foi, nous coulons. Eh oh, les gars, calmez-vous, je suis là. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que plus on connaît Jésus en personne, plus les circonstances adverses diminuent. Et même si la tempête souffle plus, là, nickel, repos, joie, justice, paix par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est la seule église, au verset 17, où Jésus lui dit « Parce que tu ne sais pas que. » Et voyez-vous, c'est très intéressant. Parce que chaque fois que le Seigneur me fait découvrir ce que je ne sais pas, je suis ivre de reconnaissance. Pour la simple raison que la volonté du Saint-Esprit en nous, c'est toujours de nous faire connaître Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité. Et je comprends que les chrétiens, ils s'en fichaient éperdument de leur propre vie. Sous les catacombes, 900 kilomètres de catacombes, sous Rome, une ville sous la ville. Même les Romains, les soldats n'y rentraient pas. Celui qui y rentrait, il n'avait plus le billet pour sortir du péage. Et bien là-bas dedans, dans le trou, l'Église se multipliait. Vous voyez bien que ce n'est pas le confort qui fait la réussite. Nous voyons bien que ce n'est pas le matériel qui fait la réussite. Nous voyons bien que ce n'est pas les fausses richesses qui font la réussite. Nos parents nous l'ont dit ou nous le diront avant qu'on se convertisse. Mon fils, ma fille, moi je veux que tu aies une situation, tu trouves une jolie dame, tu aies une belle bagnole, une bonne paye, enfin tout de bon. Tout de bon. Mais ce n'est pas ça la vie. Si Dieu l'accorde, gloire à Dieu, tant mieux. Mais ce n'est pas ça qui doit nous raccrocher. Moi je connais des gens aujourd'hui qui sont chômage, ils font une dépression nerveuse terrible. Ils sont au bord de la folie. C'est pour ça que finalement, qu'est-ce qui peut nous maintenir en santé spirituelle ? Christ. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour être en communion avec Jésus. Et là, le rôle du Papa rentre en jeu. C'est ça la plénitude de la Trinité en nous. C'est ça qui m'a fait réfléchir. Je dis, mais c'est pas possible. En 3 ans, 12 millions d'âmes ? Quoi ? Waouh ! Je dis, c'est quoi ce truc ? Lisez-le, ce livre. Vous allez être fous de joie, mais vous allez pleurer. Parce que c'est là, quand je l'ai lu, ce livre, je dis, mais où c'est que j'en suis, moi, là-dedans ? Je dis, mais notre Église, où elle en est ? Et je ne juge pas, mais je dis, mais on en est en France ? Et bonne nouvelle, tous les 10 jours, une Église évangélique s'ouvre en France. Tous les 10 jours ! Donc il y a une soif qui est là, il y a un terrain, il y a un terreau qui est favorable, il est là ! Et vous allez voir qu'un jour, vous allez comprendre que nos bobos, c'est de la poussière. Oh là là ! Et nous sommes dans l'obligation de rentrer dans une folie divine. Ah oui, oui. Mais on nous a tellement cloîtrés depuis des décennies dans des héritages religieux, traditionnels, tranquilles, calmes, pas faire de bruit, on fait même moins de bruit que les morts dans le cimetière. Et vous allez voir, quand vous commencez à chercher l'Esprit de Dieu, le Fils de Dieu et le Papa, la guerre commence. Les problèmes commencent. Ben oui, mais... Ben. Alors, au verset 17, parce que tu ne sais pas, elle se vante de n'avoir besoin de rien. Et regardez, elle s'est vantée par ses propres efforts d'avoir un héritage comme ça. Qu'aucune église ne se vante de quoi que ce soit. Jamais. Seigneur béni, à toi la gloire. Le Seigneur nous permet d'être vaillants et vainqueurs au travers de l'épreuve. À toi la gloire. On ne se comprend pas, mon frère, même pas trop, on se comprend pas. À toi la gloire. Jésus va s'en occuper. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Mais le diable, ce qu'il veut, c'est qu'il nous arrête dans des petits détails qui encombrent notre vie. Et ça devient un Himalaya et on n'y arrive plus. Parce qu'on voudrait être bien, on voudrait être aimé de tout le monde, etc., etc. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils étaient persécutés à mort, qu'à de le dire, à mort. Et je ne dis pas quand Néron est arrivé, alors là, ça a été pire. C'était horrible, horrible ce qui s'est passé. Il faut apprendre à lire les témoignages des écrits d'autrefois, et voir comment les églises ont souffert, les huguenots, tout ça. On est là à cause d'eux aussi, grâce à eux aussi, là, mettre en valeur la parole de Dieu. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont donné notre vie, et qui sait si on ne va pas être tous des martyrs dans quelque temps. Oh, je prie pour que cela n'arrive pas, hein, que Dieu nous en garde. Comment ? Mais on n'a pas à se préoccuper de ça. Et comment j'ai dit déjà ? Anne Griffith, comment elle a dit la phrase ? Tu as le souvenir de ton avenir. Souviens-toi de ton avenir. Voilà. Ça veut dire que depuis le jour où tu es chrétien, Dieu a prophétisé sur toi. quelque chose qui est devant toi que tu n'as encore pas vécu. Rappelons-lui. Vous n'êtes pas là juste pour, comme dit, j'aime bien notre cher Hachim, pour chauffer les chaises. Mais c'est ça. La réalité, cette église était pauvre en dépit de leur argent. Elle était nue malgré l'abondance de leur parure. Ils sont aveugles malgré le nombre de leurs médecins. Et écoutez bien, dans les sept lettres des sept églises, c'est la seule église appelée par Jésus misérable. Je voudrais dire autre chose. J'ai compris. Moi, j'ai toujours été impressionné par les dons, la puissance de Dieu, le déversement de l'onction, les guérisons, tout ça. C'est amen, parfait. Mais ce n'est pas ce qui fait tenir quelqu'un dans une fidélité jusqu'à la mort, à Christ. Vous pouvez avoir vécu des tas de guérisons et être infidèle à Jésus. Non, mais pourquoi il m'a guéri ? C'est sa grâce. C'est tout. Et quand on a compris ça, j'ai seulement compris, à plus de 40 ans de conversion, que le plus important dans la vie chrétienne, c'est d'avoir une vraie communion amoureuse avec Jésus. Et des fois, dans mon petit sous-sol, là-bas, dans la chambre en bas, eh bien, je pleure tout ce que j'ai à pleurer. Je suis bien. Qu'est-ce qu'on est bien avec Jésus ? Ne pas confondre sentir sa présence et vivre la manifestation de sa présence. Sentir sa présence, on va se réjouir, on va avoir de l'émotion, mais le cœur ne va pas changer. Et on va repartir heureux d'avoir senti sa présence. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus veut manifester au travers du Saint-Esprit. Il prendra de ce qui est à moi et il me glorifiera en vous. C'est pour ça qu'il a dit, faites tout au nom de Jésus. Et ces premiers chrétiens, quand ils connaissaient le nom de Jésus, quand ils le prononçaient, les ténèbres partaient immédiatement. Parce que le diable voyait que c'était des gens qui n'étaient pas à double facette, qui ne menaient pas une double vie. Quand on dit double vie, on pense souvent à l'adultère et tout. Avec Jésus, on peut être adultère. Parce qu'on aime Jésus. Mais on aime l'autre aussi, le truc là qu'on aime. Ça peut être le vélo, le foot, la télé, le gratté, le tiercé, même les caves. Attention. Tiens, en parlant de ça, vous vous souvenez l'an passé, la vision que Jésus avait donnée de la grappe, où il disait, prenez, allez, montez vers ma vigne, prenez à la main une grappe, et serrez-la et buvez. Or, hier, au soir, quand on est rentré de... Oui, hier au soir, oui. Quand on est... Non, vendredi soir, quand on est allé à... Voilà. D'accord. On a vu à Bergogne, il y a une place. Ben, je n'avais pas vu. Eh bien, regardez bien. Et il y a une statue avec une grappe à la main et il boit. Oh ben j'ai dit mince alors. Oui, j'ai même pas vu. Parce que d'habitude je conduis les yeux fermés, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Hein, c'est ça. Le connaître. On va le lire. Jean 10. Le connaître. Et ça va changer beaucoup de choses. Vous savez, les plus grands changements qui ont lieu, c'est à travers des choses d'une extrême simplicité. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants dans votre cœur, vous n'entrerez pas dans mon royaume. C'est à méditer, hein ? On est tellement sérieux, nous, les adultes. Jean 10, 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles connaissent. Verset 3. Elles entendent. Elles ne fuiront pas. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et je peux vous dire, aujourd'hui, je ne vous apprends rien, il y a énormément de voix d'étrangers qui se lèvent dans les églises. Nous sommes dans des temps à la fois préparatoires de gloire inouïe, mais le diable ne perd pas de temps pour essayer de brouiller les cartes. Si chacun individuellement n'apprend pas chez lui à connaître la voix de Dieu, il se laissera séduire par une autre voix que celle de Jésus. Et c'est pour cela que nous devons avoir une relation intense avec l'Esprit Saint, au travers du parler en langue, c'est-à-dire de l'édification personnelle, nécessaire, et y aller, et petit à petit, Dieu exerce à la fois nos oreilles spirituelles et même nos oreilles naturelles. Mon Dieu, je me dis, mais je ne veux plus avoir la même relation avec toi qu'il y a 10 ans, 5 ans, 20 ans, même l'an passé. Et c'est pour ça que la vraie église de Jésus, c'est une église, une assemblée qui est en perpétuel changement. On a parlé de choses qui changent, mais tout va évoluer. Tout va évoluer, ça va bouger sans arrêt. Alors je ne parle pas des gens qui sont là, puis qui partent, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent. Ça, c'est des bourdons. C'est des bourdons. Quand on les voit, ça affiche le cafard, ça affiche le bourdon. Non. Une abeille, quand elle butine, elle a un but, produire du miel. Et après, on vient chercher. Elle va centraliser son travail. Et l'homme va venir chercher le fruit de son travail. Mais un bourdon, il ne fait pas du miel. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ces chrétiens-là, Dieu leur parlait si simplement. Ils faisaient, ils agissaient. Vous rentrez dans une pièce, le Seigneur me montre qu'il y a une maman qui est venue avec sa fille de 12 ans. Elle a telle maladie. Avancez-vous, on va prier pour vous. Et boum, paf, 30 secondes, paf, la fille est guérie. Suivant, il y a quelqu'un ici. Catatata. Oh, mais le Saint-Esprit, il n'est pas limité. Et je crois, moi je ne sais pas, mais j'ai soif d'être comme ça. Pas pour faire une démonstration, mais parce que j'en ai vraiment marre et je souffre beaucoup de voir des gens, beaucoup trop de gens qui souffrent. Dans l'église et hors de l'église. L'église que Jésus va faire renaître, nos pauvres enseignements, en éclats, des enfants, des gamins. Dieu a donné la preuve, le prémisse dans ces choses au temps des Huguenots, où il y avait 1200 bébés qui étaient dans un lange et qui prophétisaient le pur français de la cour royale. 1200. Enfin, ça devrait faire réfléchir. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Le problème, c'est que des fois, on met nos activités d'organisation avant le Saint-Esprit. Ah non, 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 non. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il faut y méditer, là. Ah, Dieu, mais Seigneur, ce qu'on a fait, ça vaut rien. Pas du tout. Jésus n'est pas celui qui crache dans la soupe. Et souvent, c'est là où j'étais content. Moi, je croyais qu'il y a 4-5 ans que ma vie était terminée, ma vie spirituelle. J'ai dit, je vais pouvoir enfin faire du vélo tranquille. Eh bien non, Jésus en connaît plus que moi. Il en connaît un rayon innombrable. Et il a dû dire au père, guidon, ce jeune homme. Remettons-le en selle. Oh, merci. Merci, Alain. Ça y est, ling, ling, ça déverse. Oh, Seigneur. Connaître sa voix. Connaître sa voix. Qu'est-ce que ça produit, la voix de Christ en nous? Je me suis demandé. Eh bien, je vais vous dire. Elle donne de comprendre la direction personnelle de notre vie. Là, il y a le Saint-Esprit qui te pose la question. Tu as reçu une direction personnelle du Saint-Esprit dans ton cœur. Je ne parle pas de ta conviction personnelle, de la conviction surnaturelle que Dieu donne et qui dépasse notre intelligence. Ensuite, connaître sa voix manifeste en nous la conviction divine dans notre cœur et nous éloigne de la présomption. Ça, on n'en parle pas beaucoup. La présomption, c'est se confier aux choses que l'on voit. Ah ben donc c'est ça, ça y est, c'est sûr, oui j'ai vu ça, c'est ça. Hein. Moi je connais des gens, à Neuville-sur-Saône, un monsieur, il est archi-riche, et quand ça lui prend, il se déguise en clochard, il s'assoit sur, il fait la quête avec sa casquette. Il s'assoit sur le trottoir comme un clodo. Il a plein d'argent. Le pauvre. Le pauvre. On a besoin de discerner ce qui est de Dieu. Et moi, le premier, des fois, ben, j'ai les sentiments de dire « Ah, c'est ça, ça va être ça. » Puis je réfléchis, je dis « Attends, je vais demander au Saint-Esprit. » Et il faut apprendre à travailler avec le Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'il y a des choses, mais c'est fou. Tiens, je dis n'importe quoi. « Oh, Joseph, ce matin, j'ai demandé au Saint-Esprit pour toi, tu m'as parlé d'un travail, là. » Mais je sais pas, j'ai vu un magasin qui est comme ça et comme ça. Tu connais un... Oui, oui. Mais tu devrais y aller. Il y va embaucher. Oh, oh. Oula. Mais ça évite souvent des soirées complètes de jeûne et prière, d'intercession, de larmes, de combat spirituel. À la fin, le scaphandre tellement qu'on transpire et tout. Mais pourquoi? Parce que c'est simple. Si le Saint-Esprit ne collabore pas avec nous, c'est pas qu'il veut pas, c'est parce qu'on veut se débrouiller tout seul. Et cette église de Laodicée, elle s'est appuyée sur ses richesses à elle, parce qu'elle s'est dit, nous avons fait l'effort, avec tout le travail que j'ai fait, combien de fois on a vu des gens, regardez la maison que j'ai, ben disons, t'as bossé, ah ben pour bosser, j'ai bossé, ah ben oui, hein. Et après, non. Et je suis convaincu que Jésus va nous apprendre une chose qui ne va pas nous plaire, c'est à nous détacher de plus en plus des choses du monde. C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure. C'est comme de la boue, Paul dit. Mais ce n'est pas tout de suite que ça vient. Et je crois dans mon cœur que réellement, dans le pays de France, dans l'Europe et dans le monde entier, il y a une saison, on dit souvent d'une saison nouvelle, mais ne prions pas pour une saison comme on voudrait nous. Ne prenons pas ce risque. Une saison comme Dieu veut. Quand on dit que ta volonté soit faite, il faut bien faire attention à ce qu'on dit. Et en même temps, moi je croyais que ma vie était terminée. Je dis, bon, ben, ça y est, c'est bon. Hein. Voilà, contrat rempli, si on pouvait dire contrat rempli. Finalement, le Seigneur dit, où tu vas là? Mais non, ça fait que commencer. Je dis, bon, ben, ça va, c'est limité à 120, on peut continuer. J'ai été encouragé par un verset dans la Bible merveilleux. Et je crois que là, Dieu, je dis, Seigneur, parle-moi. Alors, des fois, tac, tu rentreras dans le sépulcre, dans ta vieillesse pleine de vigueur. Waouh! Alors là, yes! Waouh! Mais vous rendez compte? Vous avez des fois des... Comment ça va? Oui, ça va. Vivement la retraite. Ah. Ils arrivent à la retraite. Dong, boum. Regrets éternels. Ah non Seigneur, j'ai dit ok, notre vie t'appartient, on ne limite à plus rien, je limite à plus rien. Une seule chose je voudrais te demander Seigneur, une petite, donne-moi la santé physique, morale et spirituelle. C'est tout ce que je te demande. Et c'est là que Dieu nous a montré l'autre jour sur MCI, un évangéliste de 97 ans. Hein ? Ouah, le papy ! Je veux être comme lui ! Mais pas si vite, encore 20 ans, t'as le temps ! Oh, 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 t'as le temps ! Mais plein de feu, après un autre évangéliste de 87 ans, 88 ans. Ils sont dans le feu de l'esprit. Et là, j'ai compris, mais que ce serait bon pour des jeunes, et je pense qu'ils le font, jeunes et vieux ensemble, quelle parole riche. Et des fois, c'est terrible à dire, je hais cette vieille mentalité dans des corps jeunes. Alors qu'il y a des personnes âgées, très âgées, qui ont une mentalité de jeunesse magnifique. Et j'ai lu sur le livre Abraham, notre père, ils définissent l'âge selon les juifs. L'âge, et qui commence à partir de 5 ans jusqu'à 80 et quelques. Et bon, on croit toujours qu'une personne vieille commence à être âgée à partir de 70 et tout. Pas du tout. À partir de 70, on rentre seulement dans la maturité. Je lui dis, mais je suis en plein dans le mille. Oh, je dis, chouette. Mais c'est ça. Et finalement, on ne peut que se réjouir. Alors, je vais terminer, mais j'ai encore deux phrases. Deux. La connaissance de sa voix nous incite à approfondir notre relation avec le Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas, ça vous arrive jamais. Quand votre cœur, quand notre cœur est bien disposé, il se passe moins de 30 secondes sans que le doigt de Dieu commence à vous toucher et vous effondrez des gens là. Pourquoi ? Parce que dès qu'on ouvre son cœur, le miracle est là. Et quand Paul est arrivé à la première européenne, Lydie, il est écrit « Et Dieu lui ouvrit son cœur ». Bye. Première européenne, Lydie, « Et Dieu lui ouvrit son cœur ». Alors tout à l'heure, je ne vais pas faire un appel, mais on va se tenir debout et on va laisser le Saint-Esprit faire. Parce que les miracles appartiennent au nom de Jésus, toujours à Dieu, pas à nous. Et un chant qui dit, pas à nous la gloire, mais à toi. Alors, des fois, on y pense, mais quelque part, on voudrait s'accaparer un petit grain de gloire. Hein ? Ben non. Connaître sa voix renouvelle notre âme dans un saint rafraîchissement. Et je suis seulement en train de reprendre de la verdure. Oh, j'ai dit, ça y est, la jeunesse arrive. Je parle pour moi, hein, je ne sais pas pour vous. Mais c'est la vérité. Et pourtant, quand je fais un peu de jardin, mon Dieu, j'ai planté mes patates, je les ai bénies, j'ai parlé avec elles, tout, je les ai oint. Et je lui dis, ne me faites pas attention, mourez et multipliez, hein, c'est un ordre. Et j'étais fort, là, après je les ai couvertes et tout, bénédiction, top, terminé, je suis parti. Mais le lendemain, je me suis levé, je fais, oula, 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 oh, c'était bas la terre. C'est là qu'on se rend compte que le corps, il dit, hé, je suis là, je fais tais-toi, redresse-toi au nom de Jésus. Mais c'est très bon de se parler aussi. Je disais, il y a des nuits, je ne dors pas. Alors, vous savez ce que je fais ? J'ai découvert un truc. Je ne sais pas si c'est le Seigneur, mais ça marche. Cerveau de Patrick Martinet. Au nom de Jésus, tais-toi, dors. 2 minutes après. Essayez. Ceux qui ont des insomnies, essayez. Commandez à votre cerveau. Au nom de Jésus, dors. Des fois, c'est ma femme qui me le dit. Chérie, oui ? Dors. Et la dernière, connaître sa voix, elle renouvelle nos pensées par une intelligence, et c'est ça que je désire vraiment, surnaturelle.